Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 11 septembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord, les titres du journal de ce jeudi. Le mouvement Bloquons tout en France a lancé une série d'actions hier pour protester contre la politique du président Emmanuel Macron et la situation socio-économique du pays. Le commentateur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle lors d'un événement dans l'État américain de l'Utah, alors qu'il donnait une conférence devant une foule nombreuse en plein air à l'Université de la Vallée de Utah. La chef de l'opposition fédérale en Australie, Susan Lee, a déclaré que la sénatrice Jacinta Price avait été démise de ses fonctions du front bench de la coalition comme porte-parole de l'industrie de la défense après avoir refusé de revenir sur ses déclarations concernant la politique du Parti travailliste à l'égard des migrants indiens en Australie. Madame Price a aussi refusé de soutenir Madame Lee comme leader de la coalition. Et on passe au journal de ce jeudi. Le mouvement Bloquons tout en France a lancé une série d'actions hier pour protester contre la politique du président français Emmanuel Macron et la situation socio-économique du pays. Au moins 200 000 personnes ont pris part aux différents blocages et rassemblements et des centaines d'interpellations ont été signalées. On écoute Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui est avec Anne-Sophie Lapix sur RTL France.
On en a recensé plus de 250 000 sur tout le territoire. On a recensé plus de 1000 actions de grève et nous savons que nos chiffres ne sont pas exhaustifs. Donc c'est une journée qui est très réussie.
Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre ce mouvement que vous n'avez pas initié ?
Les revendications qui clairement cimentent la mobilisation et rejoignent les nôtres, à savoir la question de la justice sociale et le rejet de ce budget Bayrou, de ce musée des horreurs. Et donc c'est pour ça que nous étions mobilisés aujourd'hui et que nous le serons le 18.
Aux États-Unis, le commentateur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle lors d'un événement dans l'État américain de l'Utah. Fox News rapporte que Kirk a été hospitalisé après avoir été touché par un seul coup de feu tiré alors qu'il donnait une conférence devant une foule nombreuse en plein air à l'Université de la Vallée de l'Utah. Kirk a cofondé l'organisation Turning Point USA en 2012 pour promouvoir les opinions conservatrices auprès des jeunes. Il est depuis devenu le porte-parole de la jeunesse d'extrême droite sur les chaînes de télévision et lors de conférences. Le premier ministre polonais, Donald Tusk, a qualifié de provocation majeure la violation de l'espace aérien polonais par plusieurs drones russes. La Pologne affirme avoir déployé ses propres défenses aériennes et celles de l'OTAN pour abattre les drones. C'est la première fois qu'un avion est abattu au-dessus d'un pays membre de l'OTAN. Le président ukrainien et l'Union européenne ont qualifié cette attaque de test de la détermination de l'Alliance, tandis que Donald Tusk affirme que la Russie et l'Europe se dirigent vers un conflit ouvert après l'incident. Il affirme que ses alliés de l'OTAN prennent la situation très au sérieux.
We are most likely dealing with a large-scale provocation. But at the same time, we are in consultation with our allies. I am in constant contact with the NATO Secretary General. This is so that in the coming hours and days and in the future we can respond to this type of threat as effectively as we did tonight.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, demandera des sanctions et une suspension partielle des échanges commerciaux contre Israël en raison de la campagne militaire à Gaza. La présidente a annoncé son intention de sanctionner les membres d'extrême droite du gouvernement israélien et les colons de Cisjordanie, de geler le soutien à Israël et de suspendre partiellement l'accord d'association qui sous-tend les relations entre l'Union européenne et Israël. L'Union européenne, composée de 27 pays, est divisée sur la guerre dans la bande de Gaza et il est difficile de savoir si une majorité sera trouvée pour approuver les sanctions et les mesures commerciales. Et une militante australienne faisant partie d'une flottille en route vers Gaza affirme que le groupe reste déterminé à poursuivre sa mission malgré les informations faisant état de 2 attaques de drones en 2 jours. L'Australienne Juliet Lamont a déclaré sur SBS que ces attaques sont alarmantes mais qu'elles ne les empêcheront pas de tenter d'acheminer l'aide humanitaire.
We don't have any weapons on board. All we have is like baby food and medicine and other aid and nobody will react violently. And so you've just got to kind of trust that that will be met in the right way that it should. It is really scary. Of course it would be. So, but collectively we're remaining steadfast in our resolve.
La chef de l'opposition fédérale en Australie, Susan Lee, a déclaré que la sénatrice Jacinta Price avait été démise de ses fonctions du front bench de la coalition comme porte-parole de l'industrie de la défense. Madame Price a quitté le Parti national pour rejoindre les libéraux en mai afin de briguer le poste de leader adjointe du Parti libéral. Des appels de plus en plus nombreux ont été lancés pour que la sénatrice Price présente des excuses pour ses propos de la semaine dernière, accusant le gouvernement albanaise de mettre en place un programme migratoire ciblant les migrants indiens favorables au parti travailliste afin d'accroître ses votes. Madame Lee a déclaré que Madame Price restait membre du parti, mais qu'elle ne pouvait plus siéger au front bench de la coalition.
We have had over 1,000 pieces of information provided, and what is occurring now is investigators with intelligence analysts and with specialists. Mapping and other expertise are going through those reports, and we are following down every avenue of inquiry possible in the attempt to safely locate Desmond Freeman.
C'était le commissaire Jason Kelly de la police du Victoria qui a tendu la main aux habitants soupçonnés d'avoir aidé le fugitif Desmond Freeman, toujours en fuite 2 semaines, après avoir prétendument abattu 2 policiers. Et le commissaire précise que leur priorité est de capturer Freeman et pas nécessairement ceux qui pourraient l'aider. La police de Victoria met en garde la population contre les manifestations prévues par 4 groupes rivaux dans le CBD de Melbourne samedi prochain, samedi 13 septembre. Le commissaire de police du Victoria, Troy Papworth, a déclaré que ces groupes avaient des opinions extrémistes et que les manifestations pourraient dégénérer en violence.
We've got groups here who are coming together with extremist right-wing ideology. We can't discount the fact that like we saw 2 weeks ago, that the National Socialist Network will be attending these protests and speaking. And we also have similarly extremist views with left-wing and opposing ideology. What we're seeing is these people using the excuse of lawful and peaceful protest to come together and commit violence against one another.
La police a reçu des pouvoirs supplémentaires pour fouiller les personnes à la recherche d'armes et leur ordonner de retirer leurs masques. Les fauteurs de troubles ont été avertis qu'ils seraient arrêtés, tandis que ceux qui envisageaient de se joindre au rassemblement ont été invités à réfléchir sur leur participation. Des représentants de l'industrie de la pêche d'Australie méridionale se sont exprimés lors de l'enquête sénatoriale sur la prolifération d'algues toxique affectant le littoral de l'État. Des porte-parole de l'Association de l'industrie de la sardine et de l'Association des ostréiculteurs de l'État étaient parmi les intervenants lors de l'audience à Port Lincoln. Cette déclaration fait suite à l'annonce le jour de l'ouverture de l'enquête par un groupe de scientifiques qu'au moins 500 espèces d'animaux marins avaient été tuées par la prolifération d'algues toxiques et que l'ampleur des dégâts restait inconnue. Stephen Andrews, scientifique à la Great Southern Reef Foundation, affirme qu'un financement de toute urgence pour une meilleure surveillance sous-marine est nécessaire afin de combler les lacunes de la recherche.
What we're seeing on the shorelines is only one piece of the puzzle. There's a lot happening underwater that is going miss and undocumented. We have been calling for a coordinated monitoring system across the Great Southern Reef so then we can better understand the changes that occur underwater when we do have the significant events caused by marine heat waves and harmful algal blooms.
L'Australie a émis un avertissement aux voyageurs pour le Népal après l'effondrement apparent du gouvernement du pays et la mort de moins 19 personnes lors de manifestations anticorruption. Le site Smart Traveller du ministère australien des Affaires étrangères exhorte les voyageurs à reconsidérer la nécessité de se rendre dans ce pays en raison des troubles civils qui ont entraîné la fermeture d'aéroports, dont l'aéroport international de Katmandou. Un couvre-feu illimité a également été imposé à Katmandou, la capitale, et des soldats armés gardent le Parlement après deux jours de manifestations meurtrières qui ont vu le bâtiment incendié et la démission du Premier ministre Sharma Oli. Un éminent partisan du non au référendum sur la voie au Parlement a appelé à un vote sur le traité historique du Victoria. Victoria est devenu le premier État ou territoire d'Australie à soumettre un projet de loi sur un traité au Parlement après 10 mois de négociations entre le gouvernement et l'Assemblée des premiers peuples du Victoria. Warren Mundine a maintenant déclaré que le traité devrait être soumis à un référendum, mais la première du Victoria, Jacinta Allen, a déjà rejeté cet argument, affirmant que l'engagement du gouvernement travailliste de l'État en faveur du traité était à l'ordre du jour des élections de 2018 et de 2022. Le Premier ministre Anthony Albanese a rencontré le dirigeant fidjien en marge du Forum du Pacifique, les îles du Pacifique, alors que l'Australie s'apprête à signer un accord de sécurité bilatéral avec l'État insulaire. Anthony Albanese n'a pas réussi à obtenir cette semaine un accord de sécurité de 500 millions de dollars avec le Vanuatu comme prévu, mais s'est dit confiant quant à sa finalisation prochaine. La sécurité est un enjeu majeur du sommet des dirigeants du Pacifique cette année, alors que l'Australie et la Chine rivalisent d'influence dans la région. Anthony Albanese s'attend à ce que les dirigeants approuvent cette semaine une initiative soutenue par les Fidji visant à proclamer un océan de paix. Le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud a approuvé la loi relative à la création d'une réserve pour les koalas après un débat houleux à la Chambre basse, deux motions distinctes ont été adoptées par les deux chambres du Parlement de l'État. Soutenant le projet de conservation colossal du gouvernement, elle vise à ouvrir la voie politique à la création du parc dès sa première législature. Le parc national du Grand Koala devrait protéger plus de 12 000 koalas, environ 36 000 grands planeurs et plus de 100 autres espèce menacée. La ministre de l'Environnement, Penny Sharp, a déclaré que ce projet de conservation, a décrit ce projet de conservation comme une décision unique. Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 15. Hobart, 15. Canberra, 15. Sydney, 18. Brisbane, 15. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 20 degrés. Voilà, fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sur les ondes de Radio SVS, vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du cyclisme et la Vuelta qui est bien entendu tous les soirs à l'antenne de SBS Télévision jusqu'à dimanche soir. La victoire de l'équipier de Jai Hindley pour la Bora Hansgro, Giulio Pellizzari, sa première victoire sur le World Tour. Il aurait été un superbe lieutenant jusqu'ici pour Jai Hindley. Il porte le maillot blanc, donc le meilleur jeune de ce Tour d'Espagne. Il remporte sa première victoire en cette étape numéro 17. Jai Hindley est quant à lui quatrième. Il perd quelques secondes face à Tom Peacock, le Britannique, qui est donc toujours troisième et qui a la place et qui consolide cette place avec quelques secondes d'avance sur le podium. On écoute Tom Peacock.
I think that's the sacrifice, I guess, when riding for the podium. That, yeah, I sacrificed the stage. That could have been, yeah, really nice. But, yeah, bit of a shame, really. But, you know, we're racing for the podium, that's the main goal. So, yeah, we have to make decisions, I guess. Well, we were all alone in the final, apart from the Bora boys, and they kind of showed it. So, yeah, well done to them.
Tom Peacock, donc le Britannique, tout se jouera très vraisemblablement ce soir dans le contre-la-montre. Contre-la-montre qui a été réduit pour assurer la sécurité des coureurs. Un contre-la-montre qui fera que 12,2 km. Est-ce que ce sera assez pour Jai Hindley pour se hisser sur cette troisième marche du podium? Cela reste à voir. Le leader de cette Vuelta est toujours le Danois Jonas Vingegaard. Allez, on parle de football maintenant. La victoire 2-1 de la France face à l'Islande, ce qui permet aux Bleus de se hisser seul en tête de leur groupe pour les qualifications pour le mondial de l'année prochaine. Et pendant ce match, il faut noter que Kylian Mbappé a marqué son 52e but. Il dépasse donc maintenant Thierry Henry sur le nombre de buts marqués avec le maillot des Bleus. Il est le deuxième meilleur réalisateur de buts avec l'équipe de France derrière Giroud. Et ça, ça fait plaisir à une personne, à Didier Deschamps, le sélectionneur français.
C'est Kylian, tout a été très vite, très jeune, très tôt pour lui. Et puis même quand il est moins bien, c'est toujours quelqu'un qui marque des buts. Donc Thierry a été un attaquant fabuleux au niveau mondial. Kylian a encore beaucoup d'années devant lui, mais ça fait partie de ses objectifs aussi. Et certainement qu'il y arrivera parce qu'il fait tout pour mettre le curseur toujours plus haut. Et c'est Kylian, quoi. Forcément, c'est un joueur hors norme, mais qui s'est toujours inscrit, qui s'est inscrit dans un collectif.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc sur Mbappé, d'ailleurs, on va rester avec Didier Deschamps puisque lors de ce match à Paris, eh bien, Adrien Rabiot, l'ancien Parisien, il est parti vers l'équipe de Milan. Adrien Rabiot, qui depuis Paris Saint-Germain était passé à l'OM, à Marseille. Donc les supporters parisiens avaient un contentieux avec Adrien Rabiot. Ils l'ont fait entendre, ils l'ont sifflé. Et ça ne fait pas plaisir à Didier Deschamps.
Ce que je voulais que je vous dise, que je trouve ça inadmissible, quoi. C'est un joueur de l'équipe de France. Si je dois tenir compte de ces critères-là, bon, même s'il a retourné un peu tout le monde avec sa, la dernière action à son tacle, mais peu importe qu'on soit là au parc ou ailleurs, je trouve ça insupportable. Parce qu'il porte le maillot de l'équipe de France, c'est un joueur de l'équipe de France, que ce soit Adrien ou qui que ce soit. Après, quand ils sont dans de la rivalité de club, ça a toujours existé. Là, mais bon, même si c'est une minorité, mais malheureusement, ça devrait pas avoir lieu.
Didier Deschamps, donc le sélectionneur de l'équipe de France. Équipe de France en bonne position pour se qualifier pour ce mondial de juin prochain. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça se passe à peu près partout sur la planète. Coup d'œil sur l'Amérique du Sud avec Victor Missisrano.
Premier accro pour Carlo Ancelotti. Arrivé à la tête du Brésil au début de l'été, le technicien n'avait pas encore perdu. Eh bien, la Seleção s'est inclinée 1-0 en Bolivie. L'Argentine, championne du monde en titre, a pour sa part été battue sur le même score par l'Équateur. L'Albi Céleste reste bien installé en tête de la poule où 6 des 10 équipes américaines se qualifieront directement. Le Brésil est 5e. A signaler aussi, Andréane, la victoire spectaculaire de la Colombie au Venezuela. 6-3 avec un quadruplé de Luis Suarez, l'attaquant du Sporting Portugal.
Voilà la surprise, hein, donc avec Victor Missrano, cette surprise du Brésil qui perd son match de qualification. Ça se complique pour le Brésil et la qualification pour ce mondial. Les autres éliminatoires avaient lieu en Afrique. Alors, quelques gros succès d'ailleurs et belle surprise. Victoire du Sénégal 3-2 face à la République démocratique du Congo. C'est une surprise. Retour sur ce match avec Olga Kessango.
Plus de 80 000 spectateurs, le stade des martyrs a refusé du monde pour l'affiche RDC Sénégal. Les Lions de la Teranga, pourtant menés 2-0 au bout de 35 minutes, ont fini par l'emporter 3-2.
Pas bien joué aujourd'hui, malgré qu'on a été le premier à marquer. Notre équipe n'a pas si bien contenu son avantage dans les jeux. On a été dominé. Hein. Noah Sadiki était absent. On n'a pas eu ma foi pour des grands jours. Même Chancel Mbemba. Et on tombe dans la facilité.
Selon ce supporter sénégalais, les Léopards ont manqué de concentration et de discipline tactique.
Deuxième période, le Congolais, il devait rentrer avec de bonnes intentions, essayer de martyriser la défense sénégalaise, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas su gérer les émotions. Je pense qu'ils ont marqué trop tôt.
Déçus par le dénouement du match, des supporters congolais ont, eux, malheureusement, offert un spectacle indigne à la fin. Siège cassé, menace sur des joueurs, jet de projectiles, l'image du stade des martyrs au coup de sifflet final n'a pas été à la hauteur de ce RDC Sénégal.
Olga Kessango, donc pour RFI, victoire du Sénégal 3-2 au Congo. On écoute le sélectionneur du Congo. Alors lui, il est très déçu, Sébastien Desabre.
C'est sûr que c'est une déception par rapport à la physionomie de la rencontre, c'est dur. Le match a tenu ses promesses, malheureusement ça n'a pas tourné en notre faveur, malgré le fait qu'on ait eu 2 buts d'écart, on a eu beaucoup d'occasions. Le Sénégal également, mais la réalité c'est qu'ils ont marqué 1 but de plus que nous, donc il faut féliciter l'adversaire. Nous, regarder ce qui n'a pas marché pour sur les prochaines rencontres contre le Togo et le Soudan, continuer notre route de qualification sur la Coupe du Monde, parce que ce n'est pas fini, on est 2e et on doit y croire jusqu'au bout.
Sébastien Desabre, le sélectionneur du Congo. Et un autre match qui se jouait dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde pour la zone Afrique, c'est le match nul entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. La Côte d'Ivoire qui est invaincue depuis pas mal de temps, mais qui ne gagne pas match nul après match nul. La Côte d'Ivoire reste en tête de leur groupe et le sélectionneur des Ivoiriens veut rester positif, même s'il a un peu de désarroi quand même. On l'écoute.
Un peu frustré, parce qu'on aurait aimé avoir plus de maîtrise en jeu. On aurait aimé nous imposer notre jeu. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Après, on a quand même se satisfaire aussi même de partir ça avec un fin et de surtout partir en gardant la tête du groupe.
Et merci Faré, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous écoutez le programme en français. Et comme chaque jeudi, c'est maintenant l'heure du journal de l'économie et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Nicolas Perpich.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste en la question, Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Et salut Christophe.
Alors aujourd'hui, on va commencer avec BHP, la compagnie minière, qui a abandonné un grand projet d'énergie renouvelable et ça pose des questions sur totalement son engagement sur la décarbonisation, tout simplement.
Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant parce que BHP, c'est en fait la plus grande compagnie en Australie, la plus grande compagnie australienne dans un certain sens. Donc ce que BHP fait ou ne fait pas, c'est important. Il y a un impact, il y a un effet. Et en fait, en 2023, donc, BHP avait annoncé son intention de dépenser à peu près 3 milliards de dollars pour construire des projets d'énergie renouvelable, solaire, vent, batterie, tout. Et il y aurait eu une capacité de plus de 500 mégawatts. Donc, ça aurait été très important. Et l'idée, vraiment, c'était d'électrifier son business de minérail de fer dans la région du Pilbara, en Australie-Occidentale. Donc, de décarboniser cette partie de son business. Ça aurait été assez important parce que ça aurait eu l'effet de couper les émissions à effet de serre de ces mines, de ces opérations minières par 15% et en totalité pour la compagnie par 2%. Donc c'était assez important, même très important. Mais là, BHP a maintenant annulé complètement ces projets. Il y a eu des coupes budgétaires intérieures de la compagnie. Et ils ont annulé ces projets.
C'est incroyable quand on y pense, en fait, parce que il y avait un mouvement quand même depuis 2023. On sentait que l'écologie pouvait être vraiment mise en avant. Et puis là, quand il y a des coupes budgétaires, les premières choses qui passent, c'est à la couleur un peu verte, en fait. Hein.
Voilà. Donc, voilà exactement pourquoi les gens se disent, est-ce qu'il y a des questions importantes, là? Est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils veulent vraiment, en fait, décarboniser? À quel point vont-ils dire là il faut qu'on prenne ça au sérieux, il faut mettre ça en avant de tout, en tête. Et évidemment là c'est pas en tête, c'est en bas. Ils ont dit qu'ils vont explorer d'autres façons de poursuivre des projets d'énergie renouvelable, mais les projets qui sont abandonnés maintenant aurait non seulement coupé les émissions, mais aurait en fait économisé de l'argent pour BHP, c'est ça. Et c'est pas juste un coup dur pour la compagnie, mais comme tu viens de dire, vraiment, c'est un coup dur pour le pays, pour les buts d'achever net zéro. Donc parce que quand on parle d'une compagnie comme ça, une des plus grandes compagnies en Australie, ça veut dire que ça les autres compagnies regardent ce que BHP fait.
Ouais, tout à fait. Ouais, ça met un exemple en fait, hein. Bien ou pas bien, mais ça met un exemple positif ou négatif.
Voilà. Exactement. Donc ils ont coupé en fait la compagnie. Maintenant, à couper énormément ses dépenses sur la décarbonisation. Au lieu de des milliards, il dépense des centaines de millions, ce qui est pas rien, mais ce qui est quand même très peu comparé à ce qu'ils allaient faire. Donc, évidemment, pour eux, c'est vraiment pas si important que ça.
Bah merci de nous saper le moral, Nicolas. Non, je rigole. Voilà, c'est comme ça que va l'économie. Allez, on va parler maintenant de la maçonnerie et quelque chose qui peut peut-être nous aider à comprendre pourquoi c'est si cher de construire une maison, c'est le prix qu'on paye pour les maçons.
Ah oui, ouais, ça c'est vraiment là un bon moment d'être maçon. Hein. Alors oui, on peut, si on veut, on peut laisser de côté être avocat ou médecin ou quoi que ce soit, parce que être maçon ou un bricklayer, comme on dit en anglais,
un bricky,
tu peux gagner un quart d'un million de dollars.
250 000 dollars,
et ça c'est selon certaines des compagnies de construction qui disent ça. Ils disent que par exemple les maçons peuvent faire payer entre 3 et $3.50 par brique, pour chaque brique qu'il pose. Donc ça, c'est intéressant parce que juste après Covid, c'était à $3 pour chaque brique, mais avant ça, il y a 5 ans, c'était seulement $1 pour chaque brique.
D'accord, donc là, l'augmentation, elle est énorme en fait.
Elle est énorme en 5 ans. En 5 ans, plus de 300% de plus en 5 ans. Donc, si tu comptes combien de briques il y a dans chaque maison, il y a plusieurs milliers, je ne sais pas combien, ça fait monter énormément le prix d'une maison. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle les maisons sont tellement chères.
Et on sait pourquoi le prix a augmenté comme ça ?
Bah, tout est monté énormément pendant Covid, c'est sûr. Mais en même temps, les maçons eux-mêmes, ils disent, écoute, non, c'est pas trop cher parce que en même temps,
ils vont pas se plaindre. C'est pas eux qui vont se plaindre.
Ah non. Mais une chose qui est vraie, mais qui n'est pas nouveau non plus, c'est que le travail de maçon, de bricky, c'est très dur. Tu passes ta journée entière dans le soleil ou dans le froid, mais tu avec des briques, en levant des briques, en les posant, c'est un travail physique difficile.
Oui, la pénibilité du travail est là, c'est sûr.
La pénibilité, et ils disent que après quelques, je sais pas, 20 ans, 30 ans de ça, ton corps, il est crevé. Ton corps est fatigué, très très fatigué, et il y en a qui doivent arrêter de travailler assez tôt parce que leur corps n'en peut plus. À 50 ans, 60 ans, tu peux pas vraiment faire ça. Donc ils disent que voilà, ils méritent un peu plus. C'est sûr, mais en même temps, là, on a vu augmentation d'$1 à $3, $3.50.
Voilà.
Donc ça, c'est énorme. Et bien sûr, eux, ils vont pas se plaindre. Mais bon, ça pose aussi plein d'autres questions, parce que nous, on construit tellement souvent en Australie les maisons en briques avec un double mur. Mais ça pose des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder un peu plus d'autres produits, d'autres matériaux?
On rejoint la discussion d'avant. Peut-être des maisons en bois sont un peu plus écologiques.
Maisons en bois, il y a plein d'autres matériaux aussi qui sont beaucoup plus écologiques. Les briques, c'est pas du tout écologique, mais on a cette tradition ici en Australie, et c'est peut-être le moment d'explorer un peu plus ces autres options qui sont peut-être aussi un peu moins chères.
D'accord, bah ça, je pense que tout le monde est peut-être d'accord, un peu moins si on est brique d'ailleurs, mais ça, c'est
voilà.
Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique pour nous cette semaine.
Merci Christophe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Vous écoutez le programme en français.
Vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Jean-Baptiste Robin sur les ondes de Radio SBS en Australie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et vous êtes là pour une série de concerts en Australie ?
Alors exactement, j'ai 4 concerts plus une masterclass et 2 conférences que je vais donner dans un temps assez court parce que je suis là pour une semaine.
Est-ce que c'est une première pour vous en Australie ?
Alors, c'est mon premier voyage en Australie et je suis très content parce que c'est un pays dont j'entends parler très souvent. J'ai des amis qui ont évidemment joué en Australie, mais qui ont aussi vécu en Australie. Et là, j'ai la chance de pouvoir jouer à Sydney, à Wawoi et puis à Adélaïde. Donc, ça me donnera déjà un premier aperçu de ce très beau pays.
Peut-être pour nos auditeurs, parlez-nous de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a emmené à la musique classique ?
Eh bien, moi, c'est très simple. Lorsque j'étais jeune, j'habitais dans un village et mon père avait plusieurs disques. Et c'est sur un disque de piano de Beethoven et un disque d'orgue de Bach que je suis tombé amoureux de ces sonorités, de cette musique-là. Et puis, après, tout s'est enchaîné jusqu'à arriver maintenant au château de Versailles où je suis organiste à la chapelle royale, je mélange les langues et puis je compose pour différents orchestres et instruments parce que voilà, la création, c'est quelque chose de très important dans l'art qui fait partie de la musique, partie intégrante.
Et donc, vous avez commencé à un très jeune âge?
J'ai commencé, je pense que j'avais à peu près 8 ans, mais comme je vous le disais, c'était dans un village, alors il n'y avait pas de conservatoire, il n'y avait pas d'instrument, alors j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver un piano, on va dire, à peu près présentable, et il a fallu que j'attende 12 ans pour pouvoir jouer enfin des instruments de qualité, et puis après, bah, les études se sont enchaînées, en particulier après le bac, où là, j'ai mis les bouchées doubles, en travaillant comme un fou chaque jour, et puis j'ai fait le conservatoire de Paris, où j'ai eu sept premiers prix, et puis après je suis allé à Londres, et après ça s'enchaîne si vous voulez, mais l'événement déclencheur, c'était vraiment un enregistrement, et vous voyez, je n'ai pas lâché par rapport à ce coup de foudre de jeunesse.
Parlez du répertoire que vous allez présenter ici en Australie.
Alors en Australie, c'est assez varié. Ce soir, je vais jouer pour les 75 ans de la Société des organistes de Sydney. Donc là, ce seront des transcriptions et des improvisations. À la cathédrale Saint Mary, je vais jouer de la musique un peu versaillaise, Lully, Rameau, mais aussi certaines de mes compositions et des pièces plus habituelles du répertoire d'orgue. Ensuite, à Adélaïde et puis à Saint Andrew, ici à Sydney, j'essaye de présenter l'orgue d'une autre manière, avec des transcriptions de pièces pour piano, des pièces de Debussy, le Clair de Lune par exemple de Debussy. J'ai vraiment envie de sortir un peu l'orgue de l'église, parce que voilà, c'est un instrument à part entière, et pendant ce voyage j'ai vraiment envie de montrer à quel point c'est un instrument à part entière, qui peut être un orchestre à lui tout seul, où on peut transcrire du piano, de l'orchestre, et plus encore.
Et comme organiste, est-ce que vous êtes seul sur scène et vous serez seul sur scène?
Si je pourrais dire ainsi, l'orgue, c'est un petit peu, l'organiste est un peu un orchestre low cost à lui tout seul. C'est-à-dire qu'une seule personne va pouvoir sonner même plus fort qu'un grand orchestre. Ouais. Et donc, je joue tout seul, je joue très souvent seul. Parfois, je joue avec un trompettiste, un saxophoniste, un orchestre, un chœur. Mais bien souvent, l'orgue se suffit à lui seul. Et là, c'est ce qui se passera en Australie, parce que donc, ces quatre récitals seront des récitals solo.
Que diriez-vous aux gens qui nous écoutent, et surtout les jeunes qui aimeraient venir assister à vos concerts? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir?
Alors, ils vont découvrir un instrument qu'ils ne connaissent pas, mais avec une musique qu'ils connaissent. C'est-à-dire que les pièces que j'ai choisies, par exemple, Asturias d'Albéniz ou le Clair de Lune de Debussy, sont des pièces qu'on a dans beaucoup de films, hein, sont même devenues des musiques de films. Certainement que dans l'un des bis, je ferai Interstellar de Zimmer ou des pièces bien connues, mais aussi je vais mélanger avec des pièces qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont toujours accessibles, qui sont toujours, en tout cas pour l'amorce, faciles d'écoute. Parce que la musique classique, c'est une musique sophistiquée, c'est une musique qui est complexe, mais pour moi, il faut toujours qu'elle soit sur un sujet simple. Et du coup, ils vont découvrir de nouvelles sonorités avec une musique qu'ils connaissent ou qui sera facilement accessible.
Et d'après ce que je comprends aussi, vous êtes enseignant, c'est ça?
Alors, j'enseigne au Conservatoire de Versailles, où j'enseigne l'orgue à la composition. Et effectivement, à partir de la rentrée, je serai également professeur à la Royal Academy of Music de Londres.
Parlons un petit peu des projets d'avenir. Après les concerts en Australie, vous avez un calendrier assez chargé, on imagine?
Alors écoutez, d'abord je compose. Donc là, je viens d'écrire un concerto pour orgue, pour grand orchestre et orgue, qui a été créé en France et qui sera créé en Chine dans quelques mois. Et l'un de mes projets actuellement, c'est d'écrire pour la cathédrale de Westminster à Londres, où j'écris une grande messe pour orgue et chœur. Et sinon, mes projets, ce sont des disques. J'ai plusieurs disques en projet en France et un disque live qui va sortir très bientôt, que j'ai enregistré à Pékin.
Et depuis votre arrivée ici en Australie, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller visiter, par exemple, l'église où vous allez jouer?
Alors, pour l'instant, j'ai surtout travaillé. C'est-à-dire que j'ai fait des conférences à travers Sydney, je vais encore en faire quelques-unes, mais j'ai pu visiter effectivement les lieux touristiques très rapidement. Et comment dire, c'est vraiment magnifique. On est vraiment dans une ville nature avec la mer, les parcs. Les gens sont très, très accueillants et beaucoup de communautés, de nationalités différentes. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. J'ai travaillé hier jusqu'à 2h du matin à la cathédrale St. Andrew où je vais jouer jeudi. Ouais. Et puis j'ai un récital à St. Mary et ce sera, je découvrirai l'église.
Vous aurez une soirée aussi également à l'Alliance française de Sydney, c'est ça?
Voilà, je vais faire une présentation de Versailles, du château de Versailles que je connais bien. J'habite en face du château, j'y vais presque tous les jours et donc je vais leur faire découvrir quelques points inconnus du grand public qu'on ne trouvera pas ni à la télé, ni sur YouTube, ni dans les livres, car j'ai la chance de pouvoir côtoyer les conservateurs et discuter des secrets du château de Versailles, si j'ose dire. Il y en a tellement.
Peut-être un dernier message à adresser aux francophiles qui nous écoutent pour venir vous découvrir en Australie.
Eh bien, écoutez, l'orgue est un instrument qui est réputé pour être un instrument d'église où on ne voit pas le musicien, où les musiques qui sont jouées sont des musiques qui peuvent être austères, et j'ai envie de vous montrer à quel point c'est l'inverse. Vous verrez l'organiste, vous me verrez jouer, vous entendrez les musiques, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont des musiques qu'on peut entendre à l'orchestre, au piano, à la guitare, dans des films et autres, et vous verrez qu'en fait, l'orgue, c'est un paradis de couleurs magnifiques. Et à chaque fois que des personnes ne connaissent pas l'orgue et qu'ils le découvrent, il y a un véritable enthousiasme.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et bonne continuation en Australie.
Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et voilà un extrait de Toccata de Maurice Ravel. Et vous êtes avec l'organiste Jean-Baptiste Robin qui est en tournée en Australie en ce moment même.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Milko Foucault-Larcher sur les ondes de Radio SBS. Bonjour.
Bonjour Jean-Noël.
On va parler justement de votre arrivée à Melbourne parce que vous emmenez un nouveau spectacle prochainement ici avec Corinne Andrew, d'après ce que je comprends.
Oui, nous faisons deux théâtres avec notre nouveau spectacle qui s'appelle Magic of Paris. Eh bien, Magic of Paris, c'est un peu... Nous avons finalement décidé de mettre ce spectacle, de créer ce spectacle. C'est la combinaison des airs classiques français, des chansons classiques, ouais. Mais aussi des chansons pop des années 60 et 70 qui ont fait leur bout de chemin dans le domaine du répertoire français à travers des artistes comme Sacha Distel ou Claude François, qui a été un des précurseurs de cette nouvelle vague de chansons pop et adapté pour les chanteurs français.
D'accord. Parlons un petit peu des chansons que vous allez présenter de ce répertoire.
Ou bien sûr, nous, comme je dis, nous avons les classiques de la chanson française, Piaf, Aznavour, et Brel, Beko, etc. Et puis ensuite, nous y avons ajouté des chansons comme Frankie Valli, Oh What a Night, for example, que Claude François a couvert, et des chansons de Beatles, des Bee Gees, et qui ont eu un certain succès dans leur adaptation française. Donc il y a tout un mélange de styles, et nous y ajoutons un peu d'opéra et d'opérette et de comédie musicale.
Ce nouveau spectacle, Magic of Paris, c'est la première fois qu'on va pouvoir le voir ici à Melbourne?
C'est la première fois, oui. C'est un tout nouveau spectacle que nous lançons cette année. Et finalement, nous le lançons à Melbourne pour la première fois. Ce n'est pas que là, en 2026 que nous le ferons à Sydney. Donc, les deux théâtres, nous le faisons le jeudi, le 18 septembre, au Drum Theatre, en matinée. Et le samedi 20, nous serons au Potato Shed à Drysdale, à Geelong.
Très bien. Donc, plusieurs spectacles, plusieurs rendez-vous. Que diriez-vous aux francophones qui nous écoutent pour faire l'effort de venir?
Bon, c'est un spectacle assez unique puisque, bon, nous avons créé ce spectacle puisque Corinne et moi, nous avons un répertoire assez important de chansons françaises et nous avons la possibilité, comme nous sommes tous les deux francophones, et bon, bien sûr Corinne est née à Paris, ouais. Et moi, comme on le sait, je viens de l'île Maurice, donc nous avons un répertoire de chansons françaises assez important et c'était l'occasion unique de combiner différents styles de musique pour créer Magic of Paris, qui est notre tout dernier spectacle créé par le Festival de musique française.
Parlons un petit peu des projets. Je vois que vous aurez aussi un nouveau spectacle. C'est based on Broadway, c'est ça?
Broadway. Oui, je me suis retourné après 25 ans. Et j'ai créé mon premier spectacle en Australie il y a 25 ans de cela. Et c'est qui s'appelait Hats Off to Broadway. Donc, nous avons fait la tournée des clubs à l'époque, clubs et certains théâtres. Et après deux ou trois ans, bon, on l'a mis au tiroir, puisque bon, il y avait d'autres projets qui étaient beaucoup plus, qu'on voulait quand même explorer. Et finalement, je me suis dit qu'après 25 ans, j'avais un désir de retourner à mes amours du début et des amours de théâtre, de comédie musicale. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous avons décidé, et un peu au début de cette année, d'essayer de reconcevoir le spectacle. Bon, nous avons changé beaucoup d'air ont été revus et certains ont été gardés. Et nous avons un petit peu modernisé, puisque en 25 ans, il y a plein d'autres comédies musicales qui font maintenant partie du répertoire, Broadway et du West End. Donc, nous ouvrons le spectacle en octobre dans un club du Central Coast, de New South Wales.
Oui.
Et avec toujours Corinne Andrew et avec une chanteuse qui était avec moi à l'époque, Raquel Brown, qui était fait partie de la création de Hats Off en l'an 2000. Donc elle retourne dans la distribution avec nous. Donc c'est très sympa et on a beaucoup de there's a lot of fun. Et c'est un spectacle que nous projetons disons, présenté dans certains clubs et aussi dans certains théâtres du New South Wales. Je ne sais pas si nous allons nous aventurer au Victoria, puisque bon, et avec une équipe beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus difficile d'organiser une tournée. Tandis que nos tournées à Melbourne se font avec deux ou trois personnes et puis nous embauchons des musiciens
sur place.
Qui sont basés à Melbourne. En fait, des musiciens qui nous rejoignent pour Magic of Paris sont deux musiciens, un batteur et un bassiste, qui sont tous les deux basés à Melbourne. Ouais. Le bassiste a tourné avec moi l'année dernière et donc il est de retour avec nous. Et donc, c'est la façon pour nous de faire des choses financièrement avantageuses.
Et peut-être un message à encourager les gens à venir découvrir ce Magic of Paris.
Ouais, bien sûr, ça fait toujours plaisir de rencontrer parce que nous faisons toujours du meet and greet après le spectacle et ça fait toujours plaisir de partager la musique que nous aimons, et de partager cette musique avec un public non seulement australien, mais avec le public francophone de Melbourne. Je sais que, bon, dans les environs de Dandenong, il y a plein d'amis mauriciens, et j'espère pouvoir que certains feront le déplacement et viendront se rejoindre, nous rejoindre pour une matinée musicale un petit peu particulière, un petit peu qui vont certainement les ramener en arrière au domaine du souvenir.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier et bonne continuation pour cette nouvelle tournée dans le Victoria.
Au revoir, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
En ce moment, cette année-là, au What a Night, interprété donc par Corinne Andrew et Milko Foucault-Larcher, qui emmènent leur spectacle Magic of Paris à Melbourne prochainement. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est le week-end prochain, samedi et dimanche. Belle journée, à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.